France Musique.
You got it.
Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen Sie zu spät. Kommen Sie zu spät. Kommen Sie zu spät.
Elle est toujours en mouvement, accompagne de ses lèvres l'élève qui chante. Elle dit « on construit sur la sensation » ou encore « le meilleur accolement des cordes vocales qu'on puisse obtenir, c'est celui qu'on a avec un débit égal. Elle touche les corps. J'ai besoin que ça reste nourri, là. » Elle, c'est Hélène Goljevitch, professeure de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. À pleine voix, s'est invitée dans sa classe à l'occasion d'un cours public donné donc au Conservatoire le 18 janvier dernier. Et l'émission va restituer pour vous quelques leçons de chant que commentera donc avec nous Hélène Goljevitch. Bonjour Hélène.
Bonjour Karine.
Bonjour, merci d'être avec nous en studio. Donc pour on va vous écouter et vous allez commenter en fait votre propre enseignement, votre propre travail de transmission dans ce cours public. Vous aviez commencé avec quel élève, Hélène ?
J'ai commencé avec Aliénor Fex, une jeune mezzo qui vient d'arriver cette année au CNSM.
Aliénor, qu'est-ce que tu nous chantes ?
Alors, je vais vous chanter l'air de Adalgisa dans Norma, de Bellini.
On va la reprendre. Adalgisa dans...
Norma de Bellini.
Norma.
Norma de Bellini.
Grazie. Bene.
En fait, c'est l'air qui est juste avant le duo avec Polione.
Polione.
Polione. Dont elle se rend compte qu'elle tombe amoureuse. Et Polione est en fait déjà avec Norma. Mais ça, elle ne le sait pas. Mais là, elle se retrouve dans la forêt où elle comprend qu'elle est amoureuse de lui.
Oh,
irresistibil forza cui mi trascina. E di quel caro aspetto il cor si pasce, e di sua cara voce l'aura che spira.
Ok, merci Aliénor. Je t'arrête déjà. Comment tu vois la structure de ce récit? Tu étais à l'aise avec ça? Les parties sont claires pour toi? Quel est le temps que tu as dans le silence pour respirer? Tu vois, par rapport à la ponctuation de l'orchestre. Tu vois ce que je veux dire? On entend clairement que les parties sont déjà dessinées. Mais je pense que les ruptures dramatiques ne sont pas encore assez claires. N'est-ce pas? Donc, tu les organises comment?
Le problème, c'est que je prends trop de temps entre quand c'est l'orchestre et moi. Quoi.
C'est un temps que tu choisis? Il n'y a pas trop ni pas assez? Techniquement, bien sûr, on a besoin de respirer, de bien respirer, mais il n'y a aucune respiration qui ressemble à une autre respiration. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la respiration, c'est là qu'on va donner le tempo. Si c'est nous qui en sommes responsables, bien évidemment. Mais surtout, c'est là qu'on va donner le caractère.
Oui.
D'accord? Donc, si on systématise la respiration en disant, bon, voilà, on m'a appris, mon prof m'a dit, je dois respirer comme ça, c'est comme ça, tout va tout le temps se ressembler. D'accord? Et on n'aura pas la direction de la phrase. On ne sait pas où tu vas aller.
Oui.
C'est là où, théâtralement, tu vas charger ton personnage. D'accord? Donc, ça, il faut que... tu oses prendre ce temps de l'inspiration vraiment comme un temps théâtral.
Ouais,
on refait ça. Alors, tu as remarqué que quand tu fais « sospirar non vista », tu as encore envie de stationner, je dirais, sur « sospirar non vista ». La direction, c'est « sospirar non vista ». Tu poses la note. Tu ne donnes pas la direction de la phrase. D'accord? Comme si toi-même, tu ne savais pas où tu allais aller. On n'a pas besoin de savoir que toi, tu réfléchis à comment tu poses le son. Ça, c'est notre travail à part. D'accord? On prend là? Ouais.
Sospirar non vista al fin possio.
Ok. Tu remarques qu'entre ces deux parties, toi, il n'y a aucune ponctuation orchestrale. Pourquoi le silence est si long? Parce que pour l'instant, tu penses « sospirar non vista al fin possio ».
Ouais.
D'accord? Ce n'est pas un hasard, on a la même note qui entoure le silence.
Oui, donc je le fais.
Il est trop long. Chez Mozart, ça, on pourrait ce qu'on appelle passer à travers, c'est-à-dire supprimer ce silence-là. D'accord? Pour rester dans l'action. Là, on ne va pas pouvoir le faire parce que ce silence-là, il crée une émotion. D'accord? Mais tu ne peux pas mettre un point ici et un point là. Ok? On y retourne?
Sospirar non vista al fin possio. Dove a me soffersi la prima volta quel futur romano che mi rende rubella al tempio al Dio.
Pas mal.
On écoute tout de suite ce récitatif extrait de Norma de Bellini par Fiorenza Cossotto, un enregistrement discographique donc.
Thank you.
La voix de Fiorenza Cosotto dans cet extrait de Norma de Bellini, le récitatif, Hélène Gojewicz, que vous faisiez travailler donc au CNSM au mois de janvier dans ce cours public avec Aliénor Fex, donc cette première élève, ce premier cours où vous insistiez, Hélène, sur l'intention dramatique de la respiration. Sujet absolument captivant et en plus cet enregistrement pour vous restitue à merveille cette qualité du dit.
Oui, tout à fait. Ça a été difficile de choisir un enregistrement, mais si je pense qu'on a pris celui-là, c'est pour cette inflexion du mot, cette théâtralité qu'il y a là dans le récit. Et elle se saisit du silence comme d'un élément rythmique propre à l'émotion. Quand elle dit « irresistible forza », elle démarre la phrase plutôt que ce qu'on aurait imaginé par rapport à ce qui est écrit dans la partition. Et c'est ce qui va donner tout d'un coup des couleurs, une émotion, à mon avis, qui est beaucoup plus juste. Et si j'ai choisi ce travail-là avec Aliénor, c'est que c'est, je pense, le travail le plus difficile, le plus important à faire maintenant. Parce que le travail vocal, j'ai envie de dire, c'est facile. Elle a déjà un matériau qui est absolument magnifique et très prometteur. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire de ce matériau? Ça suffit pas, un beau son, si on n'est pas là pour
le beau chant dire. Pour le beau chant.
Voilà, si on n'est pas là pour dire, ça ne sert à rien. Ça me fait penser à une réflexion d'un professeur qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelait Roberto Caverni. Quand j'étudiais en Italie avec lui, on faisait le matin 3 heures de technique. Et puis l'après-midi, les chefs de chant arrivaient. Et là, on travaillait le répertoire. Donc, ils disaient, bon, aujourd'hui, vous prenez Bohème, on fait quatrième acte, vous prenez ceci, vous prenez cela. Bon, ce qui m'a permis de lire énormément de littérature. Et si l'après-midi, on avait le malheur de penser technique, ils devenaient fous. Ils nous disaient, mais non, mais la technique, ça y est, c'est fait.
C'est bon, c'est fait, c'est ce matin.
C'était ce matin, voilà. Et ils nous disaient, maintenant, chantez la technica ti viene addosso. C'était sa grande phrase pour nous dire que ce qui a été fait, et au moment où ça va devoir venir à votre service, ce sera là. Mais je pense que l'acte créateur du chanteur, il est primordial. Et je pense qu'on a à leur rappeler ça à chaque instant.
Thank you.
récitatif de la comtesse dans Les Noces de Figaro de Mozart et son grand air Dove Sono par Lucia Pop, un enregistrement que vous avez choisi, Hélène Goljevit, qui revenait donc dans À pleine voix aujourd'hui sur un cours public que vous avez donné au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, donc en janvier dernier. Cette leçon qui donc nous permet d'entrer dans votre classe et d'assister à la transmission de vos outils, des clés que vous livrez à vos élèves. Assister à l'enseignement, c'est être déjà un peu enseigné. C'est l'impression qu'on a en vous écoutant dans ces leçons publiques, Hélène.
C'est vrai que la problématique de ce cours était assez passionnante à travailler en amont. C'était le fait de dire, bon, on va ouvrir une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur d'une classe de chant sans que ce soit une masterclass. C'était pas l'objectif de ces cours publics qui ont été mis en place cette année au CNSM. Et donc, il ne s'agissait pas d'être en démonstration de répertoire, être dans une performance, mais plutôt soulever le voile de qu'est-ce qui se passe dans une classe de chant, comment s'élabore le travail avec tous ces chanteurs. Donc, j'ai fait le choix de les faire tous chanter sans aucune discrimination de niveau, qu'ils soient en première ou en dernière année, et trouver les conditions pour que l'intimité du cours soit respecté.
Hélène Goljevit, on parlait justement des outils sur lesquels vous vous appuyez et que vous essayez de transmettre à vos élèves. Il y a donc ce cours avec Aliénor Fex où on l'entend travailler un air de Norma et puis un récitatif. Et là, vous mobilisez certains exercices techniques.
L'essentiel, c'est ce qu'on a à dire. Donc, il faut qu'ils puissent organiser leur travail technique à partir de cela. C'est-à-dire que si on se dit « je vais mettre en place des outils et ensuite je chanterai », on peut y passer des années et surtout on passe à côté de l'essentiel. Donc il faut déjà les remettre dans ce processus créatif. Une fois qu'ils y sont, alors là je peux travailler et leur dire « voilà ». Déjà d'une part parce que le fait d'être dans son interprétation, on règle énormément de problèmes techniques. Ensuite, on a besoin d'outils. Voilà. Donc, effectivement, on entend chez Aliénor des questions d'attaque qui ne sont pas encore bien réglées. Elle a besoin de prendre confiance dans cet instrument qu'elle a, qui est une voix extrêmement longue. La problématique de l'attaque, c'est encore une fois lié à la problématique de rompre le silence et aussi de trouver cette stabilité dans l'instrument. J'ai envie de dire cette problématique du temps linéaire et en même temps du temps vertical dans la musique. Si je me rappelle bien, je crois que je lui fais travailler un exercice sur la sonorité fermée pour ramener dans son instrument suffisamment d'air dans les résonateurs et donc par là équilibrer la place de son larynx. Donc dès qu'on entend un vibrato qui va être un petit peu serré, etc., on peut tout de suite se dire « ah, il y a un souci d'équilibre des pressions, donc je vais recourir à des exercices qui vont régler la chose. Donc je vais m'arrêter dans mon cours tout d'un coup pour faire un focus sur un exercice ». Et par l'exercice, donner accès à la sensation. Je crois que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ça a été un beau cadeau ce jour-là.
Tu fais ça sur ING ?
Oui, sans occlusion. Hein.
Ouais. Et quand on travaille ING, on travaille sur l'élasticité de la corde. Donc si pendant que tu fais tes notes répétées, tu fais... Oui. Tu agis comme avec des marteaux, c'est pas le cas. C'est mieux, mais le legato peut être encore meilleur. On réessaie. Continue. Fais ré solfa parce que tu as entendu que tu as baissé. Regarde, pourquoi tu baisses?
J'exagère.
Ouais. Il faut vraiment que tu crées un couloir de circulation de l'air. Il faut que tu contactes les résonateurs. Si tu penses pause à ce niveau-là, tu surcharges l'instrument. Tu comprends ce que je veux dire? Tu demandes à la fois à ton vibrateur de vibrer, comme son nom l'indique, mais tu lui demandes aussi de créer le soutien. Le soutien, il est ailleurs.
D'accord ? Et c'est par le mouvement de l'air dans un vibrateur libre, d'accord, qu'on va déclencher la mise en vibration des résonateurs. Ouais. On essaie ?
Je pense que ce qui est le plus délicat pour eux, c'est de comprendre ces notions de soutien et de résonance et de les mettre en rapport. Et le rapport des deux, c'est le mouvement. Or, dès qu'on se dit « je dois soutenir », on rentre dans une fixité de gestes et on n'est plus dans le mouvement de l'air. Et la première problématique, c'est d'avoir effectivement ce débit d'air qui est régulier.
Tu la sens ? Oui, et c'est interdit de lâcher tant que le son n'est pas terminé. T'as senti ?
Ouais.
On refait ça ? Non, là, il y a rupture. Ça, c'est pas lié, Nina. Oui. C'est pas mal dans le geste, c'est pas encore assez tonique.
Ouais.
Tu le sens ? On pourrait le faire avec, en bouchant une narine ? L'autre narine à demi, ici, dans le creux. Vas-y. Et tu fais passer l'air d'abord. J'entends pas l'air. Oui. Et là, on entend une différence.
Ouais,
tu vois, dans ton débit, voilà, il est plus important quand tu fais ça et pas au moment où tu chantes. Pas mal. Voilà. Voilà.
Là, je la félicite parce qu'il n'y a aucune rupture
entre
le moment où elle souffle et le moment où elle pose le son.
Mais tant que tu ne maîtrises pas un débit régulier, c'est le débit régulier qui fait qu'on a une voix homogène. Après, tout le reste, c'est de la modulation de pression dans le corps. Donc, tant qu'on entend, on va entendre des instabilités. On chante tout de suite pour voir si cet exercice t'a servi ou pas.
Al tempio, al Dio.
Brava, brava.
Là, je crois que ce qu'on entend dans ce qu'elle nous a fait, même si le legato n'est pas encore parfait, c'est qu'on a un équilibre harmonique dans le son qui est bien meilleur. Donc, on a un rayonnement. On entend autant ces harmoniques aiguës que ces harmoniques graves dans ce son-là. Du coup, la stabilité commence à s'installer. Et du coup, la liberté d'émission. Donc, ça sera pour elle sa liberté d'expression ensuite.
Pour parvenir à des qualités de legato comme celui de Kiri Tekanawa.
Ouais, pas mal. Hein. C'est vrai que j'ai choisi cet extrait pour les mêmes raisons que l'extrait avec Kosotto. C'est ce rapport à l'orchestre, ce rapport au silence. Là, chez Mozart, c'est extraordinaire parce que l'orchestre est un personnage chez Mozart. Donc, quand est-ce que l'émotion ou l'action est donnée par le chanteur ? Quand est-ce qu'il est donné par l'orchestre ? Et ça, il faut comprendre les ressorts dans la structure pour s'en saisir. Le travail du récitatif, c'est le travail, je pense, le plus difficile qu'il soit. D'ailleurs, les élèves se moquent bien souvent de moi parce que je peux passer une heure sur deux mesures. Enfin, ils se reconnaîtront bien là. Quand on sait chanter un récitatif, je pense que chanter un air, c'est facile. Alors, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais les variations de couleurs, d'intention, sont tellement immenses dans le récit parce qu'il y a ce moment de l'exposition de l'état. C'est le moment où on est dans, on va dire, l'introspection. C'est le moment où on s'interroge en tant que personnage, bien sûr. Voilà, c'est le moment de la volubilité, de la pensée. Alors qu'une fois qu'on est dans l'air, on est déjà dans une pensée qui est beaucoup plus construite. Quand elle commence le do vaisseau, on est dans cette contenance de l'émotion, même si elle va évoluer au fur et à mesure de l'air jusqu'à ce regret final. Mais les variations sont beaucoup plus sensibles dans un récit.
C'est ça, tout s'est chargé dans le récit et l'air enfin peut, se poser sur cet état d'âme-là, état de sensation. On va entendre tout de suite donc Kirite Kanawa, cette fois-ci dans Othello de Verdi, récitatif de Desdemone.
Abbandonò, cantava una canzone.
Le récitatif est l'air de Desdemone d'Othello de Verdi dans ce quatrième acte avec Kiri Tekanawa. Cet enregistrement de 91, hein, Hélène Golgevit avec Sergei Oxolti et l'Orchestre Symphonique de Chicago. C'est ce modèle d'élasticité de timbre. Hélène, vous m'avez dit en préparant cette émission que c'était ça qui vous donnait envie d'écouter cet enregistrement parce que ça permettait de faire vivre et battre le drame, quoi, cette élasticité vocale.
Oui, c'est vrai. Enfin, d'abord, c'est un enregistrement qui me bouleverse autant aujourd'hui qu'en 91, quand je l'ai entendu pour la première fois. Je me revois pleurer devant mon écran d'émotion sur cette scène-là et je trouve que c'est intact, que ça n'a pas pris une ride. La prise de risque de ces artistes, je trouvais la plus belle chose qui soit et je crois que c'est ce qui transparaît dans cet enregistrement qui, au-delà de ça, on peut dire techniquement, est admirablement servi par une voix qui est à chaque seconde au service de l'émotion, dans un son qui est juste magnifique de bout en bout. Sur le travail que j'ai fait avec Aliénor dans ce récit de Bellini, on pourrait me dire, oui, mais tout de même, là, vous faites travailler du bel canto, le livret n'a pas d'importance. C'est vrai que c'est assez pauvre hein, et c'est pas là-dessus qu'on va se reposer, mais néanmoins les chanteurs, on a la parole et c'est là qu'on peut restituer un archet, un phrasé, une ligne vocale et ce sera du coup après facile d'utiliser des outils techniques pour rendre le bel canto.
Hélène Golgevit, vous avez, durant le cours qu'on a donc enregistré pour France Musique et dont on entend quelques extraits aujourd'hui, vous avez quelque chose de très particulier qui est restitué, je pense, à cette grande générosité, cette envie de partage avec des élèves, mais de partager votre émotion musicale, votre sensibilité et également donc ces outils techniques dont on parle, évidemment, ça fait partie d'un enseignement, mais aussi cette expérience musicale du groupe, faire groupe. Et peut-être que vous l'avez aussi nourri à l'expérience du chœur de femmes, de voix de femmes, que vous avez animé pendant des années quand vous étiez à Montpellier, parce que je crois que vous avez commencé à enseigner tout d'abord à Montpellier avant de venir à Paris, et vous avez eu un chœur, dirigé un chœur qui s'appelle le chœur Iliade.
Oui, j'ai exactement commencé au conservatoire de Sète, donc c'est pas très loin de Montpellier, mais ça n'était pas à Montpellier. Effectivement, j'ai eu une expérience du chœur. À ce moment-là, d'abord, c'est un chœur qui s'est créé au sein de la classe de chant parce que je voyais les chanteurs arriver avec leurs airs, travailler. Et si je leur proposais de travailler des duos, des trios, ben c'était assez complexe pour eux. Je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas de formation, dans le sens qu'ils n'avaient pas d'oreille harmonique. Et c'est là que j'ai suggéré à mon directeur à l'époque de pouvoir créer un chœur, mais c'était juste à destination pédagogique, c'était au sein de la classe de chant, s'adressant donc à des chanteurs qui avaient déjà des outils, qui avaient déjà quelques années de chant avec moi, et pouvoir du coup développer cette oreille harmonique. On avait au départ pas du tout l'intention de devenir un chœur professionnel. Ce que nous sommes devenus par la suite, ça a été la grande surprise.
Oui, on a des enregistrements à Radio France lors du festival Présence, donc effectivement de création d'œuvres. Votre chœur est dirigé par Peter Edveus, quand même.
Oui, un grand honneur de cet homme si généreux et si sensible.
Et quelques enregistrements donc réalisés avec cet ensemble vocal, dont une œuvre de Gustav Holst, ses hymnes du Rig Veda pour chœur, on va en écouter un. Hymne à l'aurore de Gustav Holst par l'ensemble vocal féminin Eliade, dirigé par Hélène Goljevit. Hélène, chef de chœur, donc professeur et chef de chœur à 7, hein, donc cette articulation entre...
Je ne me suis jamais considérée chef de chœur, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette légitimité-là.
Oui, c'est le monde professionnel qui vous a attribué le titre en quelque sorte, puisque le chœur a eu sa vie propre.
Oui, c'est-à-dire ça a été encore une fois dans le cadre du conservatoire où j'avais envie d'emmener ce chœur au concours de Tours pour leur faire réaliser un petit peu ce qui se passe dans le monde international et comprendre que le chœur, ce n'est pas juste la corvée pour les élèves chanteurs en classe de chant, mais que ça peut être une chose extraordinaire. Donc j'avais juste envie de leur ouvrir les oreilles sur ce qui se passait dans le monde. Donc on est parti à ce concours de Tours. Et puis à notre grande surprise et à notre grande joie, en fait, on a gagné tous les prix.
Hélène Goljevit, on va revenir sur votre cours, hein, cette grande leçon publique donc donnée au CNSMDP, cette fois-ci avec Kellig Baucher, qui travaille du Britten.
Il s'agit d'un air extrait de Paul Bunyan, de Benjamin Britten.
Merci.
Et ça raconte la légende du géant Paul Bunyan, donc, ouais, dans les forêts vierges américaines. Et mon personnage, Inkslinger, est un comptable qui rêve de conquérir Hollywood.
The fire of my existence began when no one had heard the Messiah and no one had seen a César.
Ok, Kellig, merci. Tu es en colère?
Non, mais je suis un peu amère, quoi.
Oui, oui. Mais je pense que dans ta façon de l'appréhender, là, alors, peut-être c'est ton amertume, ton désir d'amertume qui fait que tu vois, t'as envie de traiter ta voix comme ça.
Ouais.
Et on ne peut pas le faire. Essaie peut-être de prendre simplement un peu plus de distance. De toute façon, il en a déjà dans ce qu'il dit. Tu vois, pour que tu n'aies pas envie d'aller comme ça sur le son. On essaie?
Ouais.
It was out in the Styx where the fire of my existence began, when no one had heard the Messiah and no one had seen a César.
Oui, c'est intéressant de réécouter avec un peu de distance ce moment-là et je constate que j'ai fait le choix de clarifier son interprétation avant d'aller corriger son geste parce qu'effectivement, on entend tout de suite qu'il y a cet appui léger, cet appui laryngé qui lui crée ce petit problème de justesse. Et j'aurais pu faire le choix de démarrer par des exercices techniques pour rétablir ça. Bon, c'était un choix, c'était sur le moment.
I can think of much nicer professions than keeping a letter correct, such as writing my private confessions or procuring a frog to dissect. Learning Sanskrit would be more amusing, or studying the history of men. And had I the power of choosing, I would live on the banks of the Seine. I would paint Saint Sebastian the martyr.
Ok. Il y a cette accélération, d'accord? Il y a ce crescendo qui arrive. Si toi, tu anticipes tes entrées, tu vas participer par ton choix. Sinon, tu vas le subir et il ne faudrait pas qu'il y en ait 10 mesures de plus. J'exagère parce que tu t'en sors super bien. Bon, qu'est-ce que tu as d'autre comme difficulté, là?
Plein.
Alors, vas-y.
Bon, ça, comme j'en ai peur, c'est pour ça que je pense que je traîne un peu.
C'est l'inverse. Tu as un changement de tempo, là.
Ouais.
Vive, va.
Mais j'y vais pas.
Ouais.
Et après, ça c'est... N'importe quoi.
And had I the power of choosing, I would leave on the marks of the sand. I would paint San Sebastian to water, or dig up the temples of Crete, or compose an image or sonata.
Okay. Si tu veux bien, on fait juste ça sur les voyelles. Oh. Major sonata, lentement. Mm. Ok, il y a un problème ? À part l'inquiétude ?
Non.
Bon. Alors on enlève l'inquiétude. Et on conduit. Est-ce que là, tu as enlevé l'inquiétude ou tu as renforcé la pression ?
Oui.
Bien. Moins de pression quand tu démarres. On est sur l'octave d'en dessous. On ne peut pas avoir la même pression que l'aigu. Ce n'est pas possible.
Oui.
Okay ? Si tu veux, tu respires par le nez.
Ah.
Ok. Est-ce que tu as entendu que là, après avoir respiré par le nez, tu as fait... Pardon. Ah. Voilà. Là, le geste technique, il est excellent. Tu le sens qu'il est...
Mais oui, la respiration par le nez lui a permis d'abord d'avoir une respiration plus lente et donc de se calmer. Et en même temps, cette ouverture déjà des résonateurs. Du coup, on a cet équilibre qui se fait. En tout cas, qui commence à se faire sur ce qu'on appelle l'harmonisation des diaphragmes, périnée, diaphragme, voile du palais, et avoir
donc
cette concomitance.
C'est l'idée qu'il y a trois diaphragmes en fait dans le corps.
Oui, au moins.
Au moins.
On parle souvent de
donc,
voile cinq.
Du palais, donc la, cinq. Donc,
oui, on serait... parle de la voûte plantaire et on parle aussi du crâne.
Donc dans... diaphragme voulant représenter l'idée d'un hauban, quelque chose qui est à la fois en tenue et en mouvement.
Exactement. Ok, est-ce que tu as compris ce que... Je t'envoie pas à l'abattoir. Quand on a une note tenue,
ouais.
Qu'est-ce qu'on fait
pour Ah, nous... la répétition, ok.
Voilà. Après 10 à midi, 10 le soir, 10 au petit déjeuner, et puis après, on n'aurait plus peur.
Ok.
Oui, Kelly, ça va ? Tu te
Très
sens
bien.
Plus confortable ?
Voilà, et je pense que ces outils-là, comme ce que j'ai fait faire à Kelly, on entend tout de suite une beaucoup plus grande souplesse, parce que parfois, on va confondre dans un désir d'homogénéité, c'est ce fait de pousser le son. Qu'il a tendance à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi de lui donner ce répertoire, parce que ce répertoire va explorer les demi-teintes.
L'extrait de l'opéra de Britten,
Paul Bunyan. Paul Bunyan. Voilà. Mm. Et Killing n'a pas encore confiance dans la souplesse de son instrument. Or, il est capable de demi-teintes absolument merveilleuses. Et s'il comprend comment il les fait dans son instrument, ben voilà, il a tout ce qui est ouvert
déjà,
devant lui.
Voilà, il a déjà ce très beau timbre de ténor. On va écouter un autre ténor, Kurt Streit, dans cet extrait justement, cette chanson de Inksilinger, extrait donc de Paul Bunyan, de Benjamin Britten.
The fire of my existence began when no one had heard the Messiah and no one had seen a Cezanne. I learned the prose style from the preacher and the facts of life from thence, and fell in love with the teacher, whose love for John Keats was intense.
and I dreamed of writing a novel with which Tolstoy couldn't compete, and of how all the critics would grovel. But I guess that a guy got a hint. Correct, such as writing my private confessions or procuring a frog to dissect. Learning Sanskrit would be more amusing, or studying the history of Spain. And had I the power of...
Et c'est un extrait de Paul Bunyan de Benjamin Britten par le ténor Kurt Streit et l'orchestre du Royal Opera House dirigé par Richard Hickox, que nous refermerons cette à pleine voix dans la classe de chant d'Hélène Goljevit au CNSM. Merci à Bernard Legac et Tanguy Legourneau qui ont réalisé la captation conservatoire, à Olivier Dupré qui a effectué le mixage de l'émission, réalisation Christine Amado et préparation Françoise Monteil. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Barbara Hannigan que nous avons rencontrée lors de la production de La Voix humaine et du Château de Barbe Bleue à l'Opéra de Paris fin 2015. Et il sera beaucoup question de cette œuvre La Voix humaine de Francis Poulenc.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.